si vous tendez l'oreille, vous entendez une femme qui est en train de taper sur des haricots secs, sur des haricots séchés, avec un bâton, parce que c'est la récolte des haricots. Si vous tendez l'oreille, vous entendez un enfant qui va passer juste devant moi, sur ce chemin de terre rouge entre les bananiers, et qui va sans doute dire Muzungu, parce qu'ici on est des Muzungu. Ici, on est au Rwanda. Les bananiers, les fleurs formidables, les collines, là-bas j'aperçois d'autres collines, un lointain bleuté, et puis sous les grands arbres, sous les jacarandas, sous les flamboyants, sur un banc, est assis un homme avec un regard inquiet. C'est un assassin. C'est un homme qui vient de nous raconter comment il a tué et combien il a tué il y a 10 ans, presque 10 ans, lors du génocide du Rwanda. Il vient de sortir de prison, il vient de rentrer dans son village, il a reçu une rééducation, entre guillemets, et il est là parmi les familles des rescapés, parmi les familles de ceux qui l'ont tué. Et il faut cohabiter. Il faut absolument cohabiter. C'est toujours ce casse-tête dans lequel nous nous retrouvons, nous revenons encore et encore, voir comment c'est possible, comment c'est impossible de revivre après ce qui s'est passé dans ce pays si beau, si souriant. Les mômes se marrent en voyant le Muzungu, le blanc. Il y a des mômes ici, on est tout près, on est à 30 km de Kigali, qui n'ont jamais vu un blanc de leur vie, qui n'ont jamais vu un Muzungu de leur vie, et qui savent absolument pas de quoi je parle, quelle langue je parle, et quel souvenir j'évoque. C'était il y a déjà 9 ans. 9 ans, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, dans Là-bas, si j'y suis, deuxième volet de notre émission sur la GCS. Ça vous a passionné, je suis au courant, on tient informé de tout. Aujourd'hui, le deuxième volet, précédé d'une carte postale de Suisse. Et oui, OMC, Genève, signé Guy Ventil.
Alors Lucie Giraud, est-ce que déjà en quelques mots vous pouvez vous présenter ?
Alors donc je travaille à la division de l'information et de relations avec les médias de l'OMC et je suis, on le dit en anglais, information officer, et donc nous informons les médias et le public en général de ce qui se passe à l'OMC.
Dans quelques secondes, la clôture sur le marché américain du New York Stock Exchange et aussi par la direction de North European Oil Royalty Trust. Et oui, c'est le nom de la compagnie qui sonne la cloche ce soir. La voici.
Bon, la mondialisation, c'est quand même un concept assez abstrait, hein. À l'OMC, on s'occupe du commerce, hein. Donc c'est précis, c'est concret, il y a des barrières au commerce, on fait sauter ces barrières au commerce. Au secrétariat de l'OMC, nous sommes persuadés que il y a certains malentendus que l'on doit dissiper pour tout ce qui est négociation des services, le dossier GCS. Nous sommes toujours prêts à vous parler, donc si vous avez d'autres émissions qui parlent de l'OMC, s'il vous plaît, contactez-nous.
Mais à qui profite la GCS ? Aux citoyens ou aux entreprises ?
La libéralisation des services profitera essentiellement aux multinationales qui dominent le marché mondial.
L'OMC est un endroit où à peu près 150 pays se rencontrent pour décider de réduire tout ce qui est barrière au commerce. Alors il faut pas dire que l'objectif final c'est la libéralisation totale du commerce, hein. Ça on n'y arrivera pas et je pense que les États ne le veulent pas non plus. Mais on ne perd pas courage. Je pense qu'on n'a pas encore réussi à faire comprendre que tout ce qui est secteur public, la santé, l'éducation, tout ça ne sera pas touché par les négociations. Et pourtant, on le répète, on a écrit des brochures là-dessus, on les a distribuées, mais on continue.
Notre santé ! Notre culture ! Les bibliothèques ! Les musées ! L'édition ! Les ciné ! Et notre corps !
Le but, c'est que tout le monde bénéficie du commerce.
Alors, est-ce que tout le monde peut en bénéficier ?
Je pense que tous les pays sont d'accord que l'OMC, c'est une opportunité à saisir et qu'il faut évidemment faire un gros effort pour mener à bien ce cycle de négociations, que certains pays doivent faire peut-être plus d'efforts que d'autres. Et donc, peut-être qu'il y a un remaniement à faire dans certaines économies. Mais le but, c'est que d'une façon globale, tout le monde y gagne. Bon, alors vous me direz que je suis une idéaliste, mais c'est ça le miracle du commerce. Tout le monde peut en bénéficier, alors peut-être certains plus que d'autres, mais le but, c'est que personne ne perde.
Bon, écoutez, le MEDEF sait ce que c'est que l'inéluctable.
Non, en fait, les négociations sur les services, ça se passe très bien. Donc, les pays sont en train de décrire aux autres pays à quel point ils veulent bien ouvrir leur marché, dans quel secteur. Donc ça, non, ça se passe comme sur des roulettes pour l'instant.
Et voilà pourquoi aujourd'hui, deuxième volet sur la GCS. Vous allez tout savoir sur la GCS. C'est vraiment, vous avez compris, une nécessité absolue. Mais j'allais oublier quelque chose. C'est une carte postale que nous avons reçue, une carte postale de Marseille, la planète Marseille, une carte postale signée Thierry Scharf, écho sonore du bordel marseillais ambiance.
Les services sociaux, les chômeurs, les étudiants, la PJJ, le secteur associatif, les territoriaux, la culture, le secteur privé et le PCS du Saint-Charles en grève aujourd'hui et à la retraite au Flambeau aujourd'hui.
Vincent, on est sur la Canebière à Marseille, il est 10 heures passées, et là il y a une superbe manif au Flambeau qui illumine la Canebière.
Oui, c'est la troisième édition de la retraite au Flambeau qui, il y a trois semaines, est partie à l'initiative de la coordination des établissements en lutte avec essentiellement du personnel éducation nationale. Et aujourd'hui, on a à peu près toutes les professions. C'est un grand succès parce qu'on a encore doublé le nombre de participants, le nombre de flambeaux. Il y a tout le monde qui chante, c'est très joli à voir et ça nous réchauffe le cœur après deux mois de lutte, de voir qu'il y a encore des gens qui veulent faire la fête et qui veulent manifester dans les rues. Et donc, pour que le mouvement tienne, pour que les gens continuent à lutter ensemble, on va faire un rendez-vous comme ça, hebdomadaire.
Et après, c'est un côté procession, là, avec toutes ces flammes là, qui émergent de la foule. Alors, le flambeau,
oui.
La bombe de peinture, je vois, à la main aussi, et le sens du rythme.
Oui, c'est trois choses qu'il fallait aujourd'hui, oui.
Même à une heure tardive, là, hein.
Il est 11h moins le quart, c'est ça. Il n'y a pas d'heure pour les braves, il paraît. Et ça fait quelques jours qu'on y est, de toute façon, donc...
Vous, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie?
Moi, je suis comédienne.
D'accord, donc c'est les intermittents du spectacle.
Voilà, entre autres.
Pas content.
Pas content du tout, même.
Racontez-moi.
Voilà, ce qui se passe actuellement, c'est que le MEDEF est en train de mettre sur la table une négociation qui est absolument odieuse, humiliante pour la profession, au niveau du régime spécifique des intermittents, donc dont on parle, les annexes 8 et 10. Alors, un intermittent du spectacle, c'est quelqu'un qui travaille bon an, mal an, avec très peu d'argent et beaucoup de courage, pour que des créations voient le jour, pour que des festivals voient le jour. Et malheureusement, il n'est jamais payé de son travail à juste titre, et bien souvent, les employeurs, donc...
À part, évidemment, les stars qui sont toujours en avant,
il y a 3%, oui, de cette
catégorie. La grande majorité, c'est des gens comme vous.
Voilà, ce sont des gens qui occupent le terrain, et qui occupent le terrain social, beaucoup. Auprès des gens, auprès d'un public nombreux, que ce soit dans des théâtres, que ce soit dans des écoles de musique, que ce soit dans des écoles de danse, que ce soit, enfin bon, tout ce que comporte la culture en général, parce qu'il n'y a pas que la vitrine qui compte, et on a un tissu culturel très important et très riche.
À terme, de quoi vous avez peur alors?
À terme, c'est 70% de la profession qui va se recycler. On ne sait pas où, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus ailleurs. Mais il n'y a plus de possibilité de travail pour nous parce que nous avons des modes de fonctionnement tellement difficiles que la plupart des gens qui travaillent dans ces professions ont besoin de ces acédiques pour continuer à vivre en dehors de leurs contrats. Parce que des contrats sont sporadiques, sauf évidemment les grosses structures comme les chaînes de télé qui emploient abusivement des intermittents alors qu'ils devraient avoir des permanents. et tout un tas de structures de production et autres qui se reconnaîtront de toute façon. Donc ça, c'est ce qui porte le bas, en fait, sur notre profession et qui nous discrédite.
Vous, votre vie, c'est de courir de cachet en cachet, c'est ça?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai 43 ans, bientôt 44. Depuis que j'ai 17 ans, je fais ce métier et c'est vrai que...
Comédienne?
Oui, bien sûr. La dégradation du métier est sensible. Ah, ça brûle. Ah,
ça brûle, c'est votre flambeau là qui arrive à la fin là.
C'est la cire qui coule sur les... Mais il faut souffrir quand on est comédien, donc je souffre. Il faut bien savoir que c'est un métier qui se fait sur une vie. C'est une vie. On apprend à être comédien, on apprend à être musicien, on apprend toute sa vie à être danseur. On fait des gammes tous les jours, on fait des bars tous les jours, on lit tous les jours. Enfin, ça paraît bête de dire ça, mais... Pour monter un spectacle, pour choisir un sujet, il faut lire d'abord, il faut lire beaucoup de choses, il faut s'intéresser au monde.
La bombe, c'est fait pour quoi?
C'est pour taguer, j'ai tagué. Alors je suis...
C'est mal.
Ouais, c'est pas bien parce que j'ai tagué devant le MEDEF.
Ah bon? Vous êtes allé au MEDEF de Marseille alors?
À Marseille, oui, bien sûr. Bah oui, c'était nos interlocuteurs aujourd'hui. J'ai tagué escroc, menteur. C'est pas bien, hein? Mais je le pense. Et apparemment, le gouvernement est un peu sourd à la rue, donc... Mais il faudrait qu'il l'entende parce qu'elle dit des choses fortes et il est en train de se passer quelque chose de très fort en ce moment dans ce pays. C'est la précarité pour chacun, c'est essayer de penser le moins possible. C'est une société monstrueuse qui est en train de se dessiner. Il faut lutter contre ça. Il faut essayer d'être lucide et de peut-être donner la lucidité à certains qui ne voient pas véritablement ce qui se dessine.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, A-G-C-S.
Flight number 2, arriving from New
York. Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe, A-G-C-S. Vous ne pourriez pas nous faire une émission aussi sur l'accord, sur le commerce, les services? Ça nous permettrait, en tant que citoyens, de nous occuper de nos affaires. Merci.
AGCS. Qu'est-ce que ça vous dit?
Oh. Dominique et moi, je sais pas, on en a discuté souvent, mais...
Est-ce que vous connaissez l'OMC?
CNCF, on sait ce que c'est, mais OMC, on a du mal, hein.
Et AGCS, ça vous dit quelque chose?
Une pause d'école, là.
Mais c'est quoi donc la GCS?
C'est un truc génial. C'est l'accord général sur le commerce des services qui va permettre de moderniser et de rendre plus efficaces nos services publics en les confiant aux entreprises privées.
Ben, ça me disait rien, non, ça, rien du tout. C'est nouveau pour moi, ça. Moi, je découvre complètement.
Notre culture, les ciné, les bibliothèques, l'édition, les musées.
Rébarbatif, technique, austère, compliqué, la GCS, tout ça. C'est fait exprès d'embrouiller, de compliquer, de sophistiquer et d'intimider. Et surtout d'esquiver toute contestation en répondant par la communication. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous vous opposez, si vous allez brailler dans les rues, les partisans, parce qu'ils sont partisans de la GCS, disent « Ah, il y a un déficit de communication, il faut qu'on l'explique. » Et bien nous aussi, on va expliquer aujourd'hui un nouveau deuxième volet de ce dossier de la GCS. Vous avez vu comme une auditrice bute tout de suite sur les mots AGCS. Qu'est-ce que ça veut dire? Accord général sur le commerce des services. Et qu'est-ce que ça entraîne? Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à en croire certains, dont Attac, par exemple, d'Oxfam, dont un nombre de plus en plus grand d'ONG, d'observateurs, de mouvements qui sont... de syndicats, d'élus, on a parlé de ces élus qui s'opposent, de villes qui se déclarent zone non AGCS. Et c'est le cas de la ville de Paris, quand même. Eh bien, pour tous ces gens-là, il s'agit d'une organisation internationale qui est tout simplement au service des multinationales et qui a pour but de privatiser peu à peu l'ensemble de ce qui est actuellement nos services publics. Pour une raison toute simple, c'est que le secteur des services publics concernés par la GCS représente un marché de 2,3600 milliards de dollars pour la santé, 2000 milliards de dollars pour l'éducation, 1000 milliards de dollars pour l'eau. Je peux continuer comme ça. Ça fait quand même pas mal de sous. Si bien que, je reviens à ces élus qui s'opposent à la GCS, qui demandent un moratoire, qui disent nous voulons une autre organisation mondiale du commerce. C'est pas du tout qu'il s'agit qu'il n'y ait plus de règles. Au contraire, il faut qu'il y ait des règles, mais pas celle-là. Certainement pas celle-là qui, à l'évidence, si l'on s'en réfère à ce qui est dit par ses opposants, eh bien, favorise les multinationales. Ils disent, il est en effet inacceptable que des lois qui protègent la vie sociale et culturelle ou l'environnement soient démantelées au nom du commerce international. Alors, dit comme ça, ça fait 3 minutes que je parle. C'est vachement simple. Non, c'est pas simple. C'est présenté d'une façon très, très compliquée. Alors, on peut s'embrouiller dans la forme, mais dans le fond, il semble effectivement que les choses soient très limpides. C'est la vieille formule. On en a parlé en évoquant Jacques Ellul il n'y a pas si longtemps, ou en pensant à l'époque du Larzac il y a 30 ans, vous étiez bien jeune, on disait agir local, penser global. Et on va voir dans le reportage de Guy Vantil comment l'on passe du global au local jusqu'à 18h là-bas si j'y suis, à GCS.
Baiser le sec. Ces dames,
deux baguettes, deux cafés.
Que je sais que c'est un petit village.
C'est le village que tout le monde traverse et où on s'arrête pas beaucoup.
En principe, oui, c'est ça. Ouais. Enfin, les gens s'arrêtent là, pour le café, simplement.
Qui s'appelle comment d'ailleurs, par tabac?
Le petit pot de vin chez Toline. C'est mon épouse.
Combien d'habitants ici à Pézelsec, vous disiez?
372 habitants.
Mais enfin, c'est chez nous, c'est bien ennuyeux quand même. On n'a plus beaucoup de commerce, quoi. Perdu l'épicerie, perdu la boulangerie.
Et la poste?
Et la poste, bien sûr, et la poste, oui, et la poste.
Il était où le bureau de poste, là? Il était de...
un peu plus loin, là, un peu plus loin.
Et bien, j'imagine que c'était déjà une petite agence.
Oui, c'était une petite agence, mais enfin, qui rendait bien service quand même, quoi. Oui, c'était un service public quand même, quoi. Alors, je sais pas, c'est pas l'avenir des communes si on supprime tout, hein.
Mais pourquoi on supprime? Qu'est-ce qui vous a été dit, vous?
Je sais pas, que la poste n'était pas rentable.
Pas rentable.
Ton magasin, si c'est pas rentable, tu fermes.
Ah bah exactement.
Bon. Oui, mais enfin, ton magasin, c'est pas un service public.
C'est pas un service public.
Ah. J'ai le public, il est rendu comme le privé. Hein. Ouais. On est aux finances, pareil. Hein. Pas rentable, il ferme. Hein.
Ah oui, oui. Et de plus en plus.
Mais un service public, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être rentable? Hein? On se le demande quand même. Hein. On s'est tous basé là-dessus, mais je pense pas. Hein. Ouais.
Est-ce que vous connaissez l'OMC?
SNCF, on sait ce que c'est, mais OMC, on a du mal. Hein.
Et AGCS? Ça vous dit quelque chose?
Il nous pose des cols, là.
On pose des cols, n'empêche que toutes les questions sont posées. Hein, des questions avaient été déjà posées avant celle-là. Est-ce que le service public doit être rentable? C'est une vraie question. C'est la seule vraie question fondamentale devant laquelle nous nous trouvons. Est-ce que tout doit être rentable? Et qu'est-ce que c'est que la rentabilité? Qu'est-ce que c'est que... j'allais dire le sourire de la crémière, mais le sourire de la postière. Dans ce petit village où on s'est arrêté avec Guy, Pézet le sait, que un petit patelin du Poitou à 30 km à l'est de Poitiers, ben c'est la France, hein, c'est des petits nœuds, c'est des petits endroits, c'est ça le vrai tissu, le vrai tissu social profond de notre pays. C'est pas les petites scènes qu'on voit à la télévision. C'est ça la vérité. Et ça c'est inquiet. Il y a une peur à travers la perte de ces services publics. C'est démantèlement, ces ouvertures à la concurrence, à la privatisation, ces décentralisations, etc. C'est une très grande inquiétude. C'est une inquiétude sourde. C'est un sentiment lourd, lent et profond d'abandon. Voilà en tout cas pourquoi on est là, pour essayer, comme je le disais, de comprendre le lien qui peut exister entre ces lointaines décisions qui sont prises, ces beaux messieurs des G8, des OMC, des OCDE, des FMI, des banques mondiales, ces mots qu'on entend partout et qui ont pas l'air vraiment d'arriver, d'avoir un lien quelconque avec ce petit patelin chaleureux, ce petit bistrot sympa, avec l'heure du petit coup de rouge, du petit apéro, du petit croissant. Et pourtant, explication d'un message, un message auditrice.
Est-ce que tu pourrais organiser, s'il te plaît, une émission de La Base Si J'y Suis sur l'AGCS, c'est-à-dire l'accord généralisé sur la commercialisation des services. En avril 1994, les ministres de 132 pays se rendent à Marrakech pour signer l'acte de naissance de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ainsi que de 28 autres accords, dont l'AGCS. C'est Gérard Longuet, alors ministre du gouvernement Balladur, qui apposa sa signature pour la France. La ratification parlementaire fut votée le 14 décembre. La majorité était de droite, avec Balladur comme premier ministre et Alain Juppé à l'économie. Les élus ne connaissaient pas les textes qu'ils avaient votés, car ils les avaient reçus moins d'une semaine avant le vote. Néanmoins, il fut voté à 91 voix pour et 17 contre. Et c'est ainsi que la France a vendu son pouvoir démocratique. Les accords de Marrakech se placent au-dessus des instances démocratiques, au-dessus de toutes les agences de l'ONU. Les mots « droits de l'homme » ou « droits humains » ou « protection de la nature » ne figurent nulle part dans les textes de l'OMC. Et c'est pourquoi, en ce moment, tous les services publics sont attaqués, parce que c'est une simple mise en application de ces textes qui ont été votés il y a quelques années. Merci.
Madame la patronne, venez. Maintenant, j'ai appris que vous étiez la postière de Pezelsec.
Ouais, oui, j'ai pris la casquette de postière. Une petite casquette. Hein.
C'est vous qui vous êtes bougé.
Voilà. Parce que ça m'ennuyait de voir partir. J'ai dit, si on fait partir la poste, qu'est-ce qu'on va tout perdre encore, là? Et puis, qu'est-ce qui peut, si c'est possible dans les commerces, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas? Mais bon, c'est vrai que, après, on se demande si tout le monde va suivre. Et en fin de compte, ça a très très bien suivi. Plus que je pensais, quoi.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas trop le choix non plus. C'est où on vient vous voir, où on prend la voiture.
Il n'y a plus de poste. De toute façon, si moi je fais pas quelque chose, c'est sûr, il n'y aura rien eu. Hein. C'est certain. Ça partait. Hein.
Et donc vous avez fait une OPA sur la poste. En fait, c'est vrai, c'est ici, à Pezelsec, maintenant la poste est privatisée, quoi.
Mais bon, c'est pas pour nuire la poste, c'est pas pour nuire les autres, c'est pour que les gens dans le milieu rural aient encore quelque chose. Je pense que c'est ça qui compte le plus. Parce que on est tous amenés quand même à rester peut-être dans un petit village et puis avoir un petit besoin de quelque chose quand même.
Voilà, tout est dit.
Alors, une autre tentative d'explication, de pédagogie en tout cas, puisque c'est un pédagogue qui est avec nous, c'est Dominique Leblanc, qui est instituteur à Poitiers. Il est instituteur depuis plus de 15 ans. Et sa mission, c'est de remplacer, quand un prof est malade ou empêché de venir faire sa classe, eh bien, c'est Dominique Leblanc qui fait l'institut volant, quoi, en somme. Hein. Mais c'est pas tout. Il est membre d'un syndicat d'enseignants. Il est à Attaque Poitiers et à Attaque, mais il y a des groupes de travail, le petit crayon, le petit carnet, on écoute, on prend des notes, et comme c'est pas forcément folichon, c'est pour bien le dire, faut bien le reconnaître, et bien une fois qu'on a bien compris ça, on va l'expliquer aux copains du bistrot.
Il y a le sigle OMC, puis un autre truc là, la GCS, ça veut dire accord général sur le commerce des services, c'est un truc qui se négocie en ce moment là. dont on entend peu parler d'ailleurs. Après, vous n'êtes pas au courant, et il y a peu de gens qui sont au courant.
Je vous rassure, moi-même, j'en sais pas beaucoup plus.
J'avais jamais entendu parler de la GCS.
Et pourtant, la GCS, c'est un accord qui se négocie à l'intérieur de l'OMC en ce moment. Il y a une demi-douzaine d'accords qui se négocient. Il y a celui sur les services, on parlait de la poste tout à l'heure. Mais on est en train de négocier l'ouverture des services postaux dans leur ensemble, de l'école, ce qui nous inquiète un peu, de la santé, hôpital, etc., tous les services de soins. Enfin, il y a toute une... L'objectif étant de privatiser, hein, c'est, faut être clair.
Lorsqu'une chose est décidée, c'est pas deux, trois petits gars de la commune qui peuvent faire changer les choses. Les lois sont décidées en haut lieu. Peut-être, comme dit monsieur, au point de vue, même au point de vue mondial, certainement. Puis on n'est rien, quoi. On subit. Quand c'est fait, c'est tout, quoi. Je crois que c'est ça.
C'est vrai, hein. Sens, c'est ça, c'est la réalité, hein. Quand ils les annoncent, bon, c'est déjà fait d'avance. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez?
Le tout, c'est déjà d'expliquer. Alors, c'est pas toujours simple, hein, parce que vous savez pas ce que ça veut dire, OMCGCS, mais je peux vous dire qu'il y a même de nos députés qui sont censés un peu savoir de quoi ils retournent. Ils savent pas non plus.
Mais si les élus sont pas au courant de rien, comment voulez-vous qu'on soit au courant de quelque chose?
Et à qui profite la GCS? Aux citoyens ou aux entreprises?
Eh bien, après les journées d'inaction fériées, les ponts, la RTT, voici ce qu'on appelle une journée d'action, c'est-à-dire une journée de grève.
La libéralisation des services profitera essentiellement aux multinationales qui dominent le marché mondial.
On verra les conséquences de ces journées pendant lesquelles la France ne travaille pas, dans le chiffre du chômage.
Le chômage, c'est un bon chien de garde. Gentil travailleur, sois bien sage, sinon, gare au chômage.
Le MEDEF, bien entendu, dit aux Français de choisir.
Vous l'entendez, le cliquet? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous de ce cliquet? Est-ce que nous ne sommes pas une majorité à partager le sentiment de ce client du bistrot du petit pois de vin chez Claudine, à dire ben voilà, c'est décidé en haut lieu, on n'y peut rien. Depuis combien de temps les êtres humains se disent la même chose? C'est décidé en haut lieu, on est impuissant. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Le haut lieu, qu'est-ce que c'est que ce haut lieu, hein? Qui habite dans ce haut lieu? Quels sont les esprits du haut lieu? Eh bien, nous voilà revenus à cette crainte et à cet écrasement et à cette impuissance face aux décisions du haut lieu. Et avec ce sentiment du, avec ce cliquet, ce syndrome du cliquet, qui est le son exact de l'irréversible. Mais, Hölderlin, que vous connaissez, disait, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et oui, on ne voit pas ce qu'on pourrait dire d'autre que d'espérer et de se battre. Exemple, Suzanne George, que vous avez entendu hier, nous expliquait très pédagogiquement et avec beaucoup de compétences ce qu'est la GCS, et qui doit bien reconnaître que l'OMC dont on parlait à l'instant, qui gère donc ces accords, enfin qui négocie ces suites d'accords, a de quoi se défendre et sait parfaitement communiquer les arguments amenés présentés par l'OMC contre tout ce qu'on vient de dire sont extrêmement forts, sont extrêmement convaincants également. C'est une lutte profonde qui se forte qui est en train de se produire. Soyons présents.
L'effet cliquet.
Mais Susan George, quand on regarde les communiqués qui sont faits par l'Organisation Mondiale du Commerce, qui a fait justement un sujet AGCS, faits et fictions, ici une petite brochure là que j'ai sous les yeux, nous explique qu'en aucun cas les services publics ne sont menacés, rassurez-vous, et qui s'indignent contre les critiques hostiles trahissant un manque d'information. Si on écoute vos contradicteurs, qui sont les promoteurs de la GCS, la GCS sera l'une des réalisations les plus remarquables de la coopération internationale dans l'histoire. Sans lui, le monde serait beaucoup plus pauvre et beaucoup plus exposé aux dangers.
La GCS est faite pour ceux qui l'ont écrit. Et ceux qui l'ont écrit sont des sociétés transnationales qui se sont occupées de cette question à partir du milieu des années 80. Le credo et vraiment la religion de l'OMC, c'est que la libéralisation, c'est-à-dire la privatisation dans tous les domaines...
L'ouverture
à la concurrence est une bonne chose dans tous les domaines et sans exception. Point barre. Et puis, il y a les lobbies qui sont extrêmement actifs et avec lesquels la Commission a une relation tout à fait intime. Et je citerai le directeur des services de cette même OMC qui écrit cette brochure « Faits et fictions » qui disait, et je cite, « Sans les énormes pressions » des multinationales américaines dans le domaine financier, notamment, et il les nomme, notamment American Express et Citicorp, il n'y aurait pas eu d'AGCS et probablement pas d'Organisation mondiale du commerce et probablement pas d'Uruguay Round du tout. C'est-à-dire l'Uruguay Round, c'était le cycle qui menait à la naissance de l'OMC.
Sans l'énorme pression exercée par le secteur financier américain, il n'y aurait pas eu d'AGCS, et peut-être pas d'Uruguay Round, ni d'OMC.
Bon, alors, lobby en ce qui concerne le Nord. Faiblesse du Sud, oui, parce que à l'OMC, il y a 3 douzaines de pays qui n'ont pas d'ambassadeur.
L'OMC, c'est à Genève, en parenthèse.
C'est à Genève, ville extrêmement chère. Et il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une mission permanente. Ils partagent un ambassadeur. Et puis, il y a les pays du Quad, quadrilatère, Canada, Japon, États-Unis, Union européenne, qui sont les vrais moteurs. Et on dit ouvertement que lorsque le Quad a décidé de quelque chose, ben c'est décidé, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le consensus, et il est rarissime qu'un pays du Sud puisse défier la volonté du Quad. Je crois que beaucoup de pays ne savaient pas ce qu'ils signaient. C'est d'ailleurs un ancien directeur de l'OMC qui l'a dit. Il l'a dit sur la GCS, c'est très compliqué et je doute, disait-il, que beaucoup de nos pays membres aient encore compris l'étendue et le potentiel de ces textes. Je le cite parce que il dit très clairement dans une conférence d'hommes d'affaires quelle était la vérité sur cette histoire. C'est compliqué parce que je vous ai dit déjà le nombre de secteurs qui sont couvert, mais c'est que aussi ça couvre des problèmes d'investissement, ça couvre l'ouverture de certains secteurs qui vont être privatisés en douce. Et puis on va nous dire après, désolé, mais vous avez signé une fois pour toutes ce traité, que ça n'était pas suffisant d'avoir la liberté du commerce sur les biens industriels, qu'il fallait inclure bien d'autres choses encore, l'agriculture, la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les brevets sur le vivant, et puis tous les services. Ça représente des marchés fabuleux.
C'est vrai que libéraliser les services publics, c'est ouvrir aux entreprises un gigantesque marché lucratif.
La santé.
L'eau.
L'éducation.
Et est-ce qu'on peut en sortir?
En théorie?
Oui.
En pratique?
C'est quasiment impossible.
À ceux qui veulent ramener le monde répond résistance.
C'est quasiment impossible. L'effet cliqué.
Quasiment impossible. Depuis le début de l'année 2002, le front du refus s'élargit. Les déclarations d'International Syndicale, d'Assemblée d'élus, Assemblée des régions d'Europe, Parlement belge, Conseil général de Haute-Garonne, Conseil de Paris, etc. Ces oppositions se multiplient et tirent la sonnette d'alarme. De plus en plus de syndicats, d'associations, d'ONG, de citoyens se mobilisent. D'ici 2005, tout est encore possible. Tout dépendra de l'évolution de la mobilisation. L'OMC est sous la responsabilité des gouvernements et des États membres, et tout dépendra de notre capacité à remettre
les gouvernements sur les rails de la démocratie. Ainsi écrivent ceux qui, ben, vous avez compris, luttent contre, enfin, pour un moratoire. Hein, il ne s'agit pas de, encore, je crois, comprendre, il ne s'agit pas d'abolir tout règlement, mais voilà, de voir les choses différemment. Alors, comment on voit les choses? Nous voilà dans notre petit bistrot, à l'heure de la brioche.
En principe, tous les matins, on boit notre petit café avec un couple de retraités, deux, trois agriculteurs, notre boulanger qui passe quand même et qui nous fait la brioche tous les jours. Alors là, c'est un moment de la journée qu'on ne peut pas passer à côté.
Mais qu'est-ce qu'ils font les gens ici déjà? J'ai l'impression que c'est beaucoup d'exploitations agricoles, non?
Oui, c'est basé uniquement sur les exploitations agricoles, oui. Hein, Michel, surtout céréalier, hein.
Oh, il n'y a que de ça. Oh,
il n'y a que de ça, oui.
Parce que vous, l'agriculteur, OMC, ça veut dire GATT.
Oui.
Question des subventions.
Ah oui, c'est sûr. Là, maintenant, on vit que par les subventions, hein, pratiquement. Nos produits, ils valent plus rien du tout, hein. C'est à l'hectare, ils versent une prime à l'hectare maintenant. C'est pas comme avant. Hein. Nous, on préférait avant que bon, on vendait nos produits à un certain prix. Bon, tandis que maintenant, les produits, bon, on les donne pratiquement. Puis ils nous payent un petit prix, puis après ils nous donnent des primes en plus. Et les primes elles ont tendance à baisser.
Et puis on dit maintenant, faut arrêter de faire des primes, c'est ça? Faut voilà. Arrêter les subventions, c'est ça?
Ah normalement, ouais, ça doit arrêter bientôt. En 2007, je crois.
Et sur la question agricole? Là, le projet, c'est un des articles de l'accord qui dit l'objectif, c'est la suppression totale des subventions, totale, dans le domaine agricole en particulier. Oui, oui. Donc, effectivement, il y a de quoi être inquiet.
De toute façon, je plains, moi, c'est les jeunes, hein, parce que bon, bah, maintenant, moi, à mon âge, j'irai au bout. Hein. Mais les jeunes, faut qu'ils aient le moral hein, pour se lancer là-dedans. Hein.
Donc notre ami agriculteur, il va avoir cette partie très importante de ses revenus qui risque d'être coupée.
Oui, l'OMC va s'attaquer aux subventions qui sont considérées comme des distorsions au commerce. Donc évidemment, c'est une distorsion. L'objectif, le but d'une subvention, c'est de rendre tel ou tel produit ou service moins cher, parce que c'est considéré comme important pour la communauté nationale. Donc forcément, c'est un obstacle au commerce, parce que ça n'est pas le prix réel de production ou de fourniture de ce service. Mais encore une fois, cet accord est fait pour abolir successivement toutes les barrières qu'on a pu ériger contre l'ouverture à la concurrence et contre la marchandisation de tout ça. Alors là aussi, il faudrait que les citoyens se mobilisent. Quelquefois, on est hors d'haleine, on a l'impression de courir après tant d'horribles lièvres qu'on ne sait plus où donner de la tête. Vous comprenez, l'OMC, c'est pas comme simplement une organisation qui règle les tarifs industriels. Ça s'arrête aux frontières. Mais l'OMC vient dedans, vient au centre d'un pays et lui dit quels sont les règlements qu'il peut avoir, quelles sont les lois qu'il peut maintenir et ne pas maintenir. Est-ce qu'il peut avoir des mesures sur l'environnement, par exemple, qui sont plus strictes? Il va dire c'est un obstacle technique au commerce parce que c'est pas le pays qui décide, c'est l'OMC. Savez-vous que, par exemple, notre refus d'importer du bœuf aux hormones nous coûte encore chaque année 116 millions de dollars parce que les États-Unis ont le droit de taxer les produits européens pour compenser le manque à gagner parce que les Européens n'importent pas le bœuf aux hormones. Et la cour de l'OMC leur a donné cette autorisation. C'est une cour qui a la possibilité d'imposer ses décisions par la contrainte des sanctions. Alors, maintenant, l'Europe, et ça c'est une question que je pose, nous avons eu une décision en notre faveur, parce que les États-Unis exportent beaucoup de produits très chers, comme les avions, fictivement, des paradis fiscaux comme les îles Vierges. Tout d'un coup, tous les Boeing sont faits aux îles Vierges et partent des îles Vierges. C'est très commode parce que ça évite des quantités d'impôts. Alors, l'OMC, et c'est à son honneur, a décidé que c'était un avantage considérable que le gouvernement donnait à ses constructeurs, pas seulement
des subventions déguisées.
Exactement, des subventions, pas seulement aux avions, mais à plein d'autres industries qui, tout d'un coup, exportent de ces paradis fiscaux. Et l'OMC nous ont donné l'autorisation de sanctionner les produits américains, non pas en millions de dollars, mais en milliards de dollars. 4 milliards de dollars. On a été autorisé depuis plus de 6 mois. On n'a pas pris l'ombre d'une sanction contre les États-Unis.
Vous voulez dire qu'on n'a pas taxé les McDonald's?
Non, on n'a pas taxé ni les produits agricoles, ni industriels, ni... Alors, il paraît que la liste est dressée et pour des raisons qui m'échappent, on ne les applique pas. Quand eux nous taxent, on paie, mais quand nous avons le droit de les taxer, eh ben, nous faisons le dos rond. Est-ce que on a peur de faire de la peine à nos amis américains? Je ne sais pas. Peut-être vous pourriez le demander au commissaire Lamy. C'est très curieux.
Bonjour. Face à la GCS, deux attitudes possibles. Rejoindre le cœur des pleureux ou participer à la campagne lancée par Agir ici, en partenariat avec ATTAC, avec le CRID, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du Monde. Agir ici a imprimé des cartes à envoyer aux décideurs, députés, ministres délégués au commerce. Il suffit de les signer, de compléter l'adresse et de les expédier. Voici l'adresse d'Agir ici, 104 rue Oberkampf, 75 011 Paris. Salut.
On n'a pas voté pour le libéralisme. On n'a pas voté.
Il faut rendre nos universités compétitives sur le marché mondial de l'enseignement supérieur. Ainsi s'est exprimée Madame Viviane Reding, commissaire européen à l'éducation et à la culture. Elle faisait ainsi écho à une déclaration du représentant de l'Union européenne auprès de l'OMC qui affirmait en juin 2000, je cite, « L'éducation et la santé sont mûres pour la libéralisation ». Ainsi, l'ONG Oxfam, ONG britannique, dit « Ce n'est plus l'éducation pour tous ». À l'avenir, ce sera l'éducation pour ceux qui peuvent la payer. On entre dans le 21e siècle en rétrogradant au 19e siècle. Et la GCS, bien évidemment, concerne également l'éducation. Ce à quoi, et cette auditrice dans ce message y fait allusion, ATTAC par exemple, dit « Tout dépendra de notre capacité, écoutez bien, à remettre les gouvernements sur les rails de la démocratie. » Suzanne George.
L'effet cliqué.
Il faut qu'il y ait un grand débat démocratique en Europe sur qu'est-ce qui doit être dans le marché, qu'est-ce qui ne doit pas y être, où pouvons-nous gagner effectivement sur le plan de l'emploi sans détruire les gains de tous ceux qui ont lutté avant nous. Comment pouvons-nous aider le Sud à travers le commerce sans l'empêcher de faire ses propres choix? Chez nous, on estime que les services publics dont nous disposons et un certain modèle européen, eh bien, il a fallu que des gens meurent pour cela. Il a fallu qu'ils se battent pendant des décennies. Et avoir du respect pour les gains d'autrefois et ne pas dire tout doit devenir une marchandise et que tout est un marché, c'est le respect pour le passé, c'est le respect pour la République. Vous savez, moi je suis française depuis maintenant presque 10 ans et j'ai peut-être plus à cœur ce qu'est la République, ce que représente ce modèle pour l'humanité, que cette idée de la République française, jamais parfaite bien sûr, mais bon, comme idéal, je trouve qu'il ne faut pas brader ce que des générations ont lutté pour parfaire, pour améliorer, et que nous devrions être dans cette lignée-là et non pas dans la lignée qui dit le marché a toujours raison. Faisons en sorte que la santé soit un marché parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'argent à gagner.
On est dépensé.
Tu crois ça?
Oui.
On vous a déprimé là pour la journée. Hein.
Non, on n'est pas... On est réaliste, c'est tout.
La vie continue.
On est réaliste, on voit ce qui se passe, mais on n'y peut pas grand-chose. si on pouvait, ça arrangerait bien les choses.
Mais le remède, faut le trouver, le remède.
En vrai, tout le monde a de bonnes idées, mais faut les mettre en chemin, quoi. Ouais.
Ouais. Et là, vous avez entendu la conversation qu'on avait sur l'OMC?
Non.
Vous savez ce que c'est?
Ça me dit quelque chose, l'OMC.
Organisation mondiale du commerce.
Ah oui, c'est mon épouse qui connaît mieux ce sujet-là. Ben non, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est gestion, c'est mon épouse qui s'occupe de ça. Ah oui. Moi, je ne m'occupe pas du tout. Enfin, moi aussi, je m'occupe quand même aussi bien, les clients soit au bar, ou à table, ou autrement, je suis en cuisine.
Ouais.
Ouais, alors, bon, on a chacun notre rôle. Et puis, mon épouse, bon, bah, elle bord la terre à l'école un petit peu plus longtemps que moi. Bon, bah, tout ça, bon, bah, il faut quand même que, certaines gestions, il faut quand même connaître. Hein. Et si on les connaît pas, bon, bah, c'est pas évident de s'en sortir.
Et c'est pas évident de comprendre aussi.
Exactement. Bon, faut quand même pouvoir répondre aussi à certaines questions qu'on puisse demander. Si on ne les connaît pas, ben on est bloqué, comme on dit. Voilà.
Bah oui. Et pendant ce temps-là, le cliquet.
Suzanne George, qu'est-ce qu'on peut dire aussi à ceux qui sont informés justement de ces enjeux, de cette négociation de la GCS et de ce qu'elle représente, et qui après disent oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Moi, j'ai beaucoup d'espoir, mais je dirais à chacun qui voudrait faire quelque chose que c'est très difficile de le faire seul. C'est pas le genre de domaine où on peut dire bon. Ben,
moi, je suis contre la GCS. Voilà, je suis contre.
Voilà, exactement. Et je vais acheter éventuellement du café commerce équitable et pas tout donner aux transnationales. Très bien. Mais je vais dire, pour lutter contre cette histoire-là, il faut être avec d'autres. Il faut que le gouvernement prenne conscience qu'il y a vraiment une demande du peuple français qui les concerne et que nous n'allons pas être des moutons. Enfin, on commence à comprendre que ça a l'air très très bien dire libre-échange, n'est-ce pas? Ce qui est libre, c'est forcément bien. Mais on commence à comprendre à quel point ce mot-là est un piège dans le cas de tous les échanges libres. Bien sûr, le commerce peut être fructueux, peut être enrichissant, mais il faut que les règles soient débattues démocratiquement. Et puis, il y a une chose très drôle. Il y a un article dans l'accord sur le commerce des services qui dit, avant toute nouvelle négociation, et nous y sommes, il faut faire une évaluation de l'impact du commerce des services. Et ça, ils ne l'ont jamais fait.
Ça veut dire
que nous avons déjà eu une première libéralisation depuis 95. Il s'agit de voir est-ce que c'est bénéfique, pour qui, comment.
Ça veut dire, est-ce que ça marche, quoi? Quels sont ses effets?
Exactement. Est-ce que ça va dans la poche des transnationales? Est-ce que c'est bénéfique pour les citoyens? Et c'est prévu par le texte. Ils ne l'ont jamais fait. Et quand vous leur demandez pourquoi vous n'appliquez pas l'évaluation, ils disent oui, mais nous essayons de le faire, mais ils sont extrêmement fuyants sur ce chapitre. C'est que la GCS applique ces textes sélectivement. Et c'est ça qu'il faut que chacun, comme il peut, dans sa profession, dans sa ville, que ça devienne une question, parce que c'en est une, parce que ça aura à terme beaucoup plus d'influence sur la vie de ce pays et des pays du monde entier, probablement, que certaines décisions qui seront prises par les parlementaires. Et d'autre part, parce que si l'OMC et la GCS réussissent à faire leur programme, ben ça veut dire que nos députés deviennent quasiment inutiles dans l'avenir, parce que tout sera décidé ailleurs, tout ce qui est important.
Alors, on sort du bistrot, on a pris un thé avec une petite brioche, et avec Dominique et l'Instit et militant d'attaque, c'est le moment du bilan.
Directement et indirectement, dans le bureau de poste là qui vient de fermer, les conséquences d'Avos, de Doha, de l'Uruguay Round, etc., elles sont là.
Le gros défi, c'est d'arriver à rapprocher au maximum les deux, à rapprocher la décision prise ou l'orientation qui semble être très loin de nous, de le rapprocher de Pézelsec, d'Archigny, etc. C'est quelque chose qui n'est pas virtuel, c'est pas quelque chose qui est posé comme ça à Genève, puisque l'Organisation Mondiale du Commerce est à Genève, hein. C'est quelque chose qui est peut-être géographiquement loin, mais qui est politiquement, on va dire, prêt. Concrètement, ça nous arrive dessus vite.
Pendant ce temps-là, Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. Pendant ce temps-là, ça va sonner à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. Pendant ce temps-là, ça va sonner à Washington. Pendant ce temps-là.
À Washington, les manifestants anti-mondialisation ont réussi, malgré les forces de sécurité, à empêcher l'accès au siège du FMI et de la Banque mondiale. Sur le carreau pour l'instant, trois ministres tombent. Vous savez que ce sont les grands syndicats américains qui ont organisé cette marche pour dire non à la fois aux OGM, aux bœufs aux hormones, mais aussi oui au partage des richesses et aux droits des travailleurs. Il y a énormément de monde, la police est partout et les hélicoptères survolent.
Nous allons vaincre l'exploitation nationale pour aller ensemble vers ce que nous voulons.
Merci à Suzanne Georges, Dominique Leblanc, Madame Claudine et son époux du Petit Poitevin à Pazé-le-Sec, ainsi que Monsieur Popineau et Lucie Giraud de l'OMC. Si vous désirez des livres sur le sujet, il y a Remettre l'OMC à sa place de notre invitée de ce soir, Suzanne Georges, aux éditions Mille et une nuits, OMC, le pouvoir invisible d'après Bertrand et Laurence Kalafatides, publié aux éditions Fayard. Le reportage était de Guy Vontil et Thierry Scharf, à la technique Anne Le Guéhennec et Patrick Henry. Assistante Joël Levert, assistant Koyen Guyenne, répondeur Christophe Imbert et réalisation Antoine Tchao. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, le 01 56 40 37 37, le fac 01 56 40 41 07, l'email daniel.mermet@radiofrance.com.